nous allons nous intéresser aujourd'hui à District 9, très exactement, film de Neil Blomkamp, sorti en 2009. Et nous allons voir comment District 9 exploite le jeu vidéo, c'est-à-dire à la fois son langage, mais aussi son imagerie et sa technique, pour développer un discours qui va à rebours de celui de la transhumanité. Il est nécessaire, avant d'aborder cette brève étude, de bien comprendre qu'il s'agit ici de symbolique, c'est-à-dire que Neil Blomkamp, District 9, ne critique pas en soi la transhumanité. Il l'exploite pour bâtir son discours, de la même façon qu'il ne cherche pas à imposer une certaine technique tirée du jeu vidéo et à la montrer sous un jour favorable dans un jeu d'opposition réel. Tout ceci n'est que symbolique pour servir le discours du film. Il est très important que vous vous souveniez tous de ceci pour la suite de l'exposé. Bien. Alors pourquoi choisir District 9, justement? Tout d'abord parce que c'est un film marquant dans la façon dont il a été tourné. Et surtout parce que c'est le premier long-métrage de Neil Blomkamp, qui était auparavant cinéaste de court-métrage et de publicité. C'est aussi un film qui présente la structure de l'apartheid projetée dans un récit de science-fiction qui procède à une inversion des discours habituels dans ce domaine. C'est-à-dire que dans District 9, c'est l'être humain qui est l'oppresseur et l'extraterrestre qui vient sur Terre qui est opprimé. Ce qui va à rebours de ce que vous pouvez voir dans des productions comme Independence Day ou V, la série télévisée. Plantons le décor. En 1982, un grand vaisseau spatial circulaire, exactement semblable à celui d'Independence Day, arrive au-dessus de Johannesburg. À l'intérieur, on y découvre 1 million d'extraterrestres insectoïdes, incroyablement laids, qui semblent complètement perdus, idiots, affamés et malades. Et ne sachant que faire d'eux, l'ONU décide de les parquer à Johannesburg, dans un township que l'on appelle le District 9. L'action se déroule en 2009, soit 27 ans après leur arrivée. Et 27 ans après leur arrivée, la situation n'a pas changé, sauf qu'au lieu d'être simplement parqués et nourris, ces êtres sont aussi maltraités. Bien plus maltraités que ne pouvaient l'être les Noirs, au premier abord, dans leur township à eux. Mais en réalité, pour qui connaît l'histoire de l'Afrique du Sud, Johannesburg n'est pas un endroit neutre. Comme on a pu nous l'expliquer auparavant, les événements de Soweto ont été particulièrement violents. Pour ceux qui ont vu Comeback Africa, et naturellement nous avons tous entendu le récit qu'a fait Anaël tout à l'heure dans son intervention, l'apartheid a été extrêmement violent. Et en 2009, nous nous situons 15 ans après sa fin. La population extraterrestre immigrée apparaît donc comme des oubliés de la fin de l'apartheid. Ils sont toujours parqués, ils sont toujours maltraités, et ils sont toujours traités comme portions négligeables de la société. Pourtant, ils sont là et ils ne peuvent pas repartir. Voilà le décor dans lequel le récit se passe, dans un espace donné et dans un temps donné. Je vais vous faire maintenant un bref résumé du film. Le personnage principal est Vicus Vandemeur, un petit fonctionnaire d'une société qui s'appelle la MNU, Multinational United. La MNU représente l'ONU, et elle symbolise aussi les conglomérats d'industries lourdes et les grands intérêts financiers. Ce n'est pas une véritable entreprise, c'est une fiction qui incarne tout ce que notre société peut produire d'égoïste et de néfaste dans l'écrasement de l'individu pour l'acquis de quelques profits. Vicus Vandemeur n'est qu'un exécutant des basses œuvres. C'est aussi le beau-fils du président de la MNU, ce qui le place dans une situation particulière et qui lui permet d'obtenir un poste avantageux où il doit expulser les extraterrestres du District 9 car ils sont vus comme des menaces, des nuisances, des êtres malfaisants qui causent des assassinats, qui vont piller les maisons. On veut les expulser vers un nouveau district, le District 10, et pour ce faire, il faut les renvoyer de chez eux en leur faisant signer des papiers. Et toute la première partie du film nous montre tout un étalage de violences de plus en plus brutales qui sont exposées dans une avalanche de sang, de fluides organiques étranges, de carcasses, et qui prennent au corps. Et le tout est filmé de façon particulièrement saisissante, caméra sur l'épaule, comme s'il s'agissait d'un documentaire. Un documentaire au sens le plus strict du terme, avec des interviews qui s'intercalent entre les scènes pour donner des apports et des précisions, pour enrichir l'impression de réalité du film. Plus important, la caméra cadre très près des corps, et elle peut redonner un regard direct sur une violence brutale et viscérale. Le début du film est excessivement violent, et il ne fait que préparer à la suite. C'est-à-dire qu'il nous montre Lucius Van de Merwe en train de brutaliser des extraterrestres, de les renvoyer chez eux, de leur mentir, de leur distribuer de la drogue, à savoir de la nourriture pour chats, et de procéder à des affrontements sauvages à coups de lance-flammes sur des œufs d'extraterrestres. Ce n'est pas un personnage sympathique, et au premier abord, il apparaît comme une véritable ordure. Mais on montre aussi un autre visage de la personne, qui est un mari aimant, un homme doux, qui se préoccupe, jusqu'à une certaine limite, de la sécurité de ses employés. Il a donc deux visages, deux personnes qui luttent en lui. Jusqu'au moment où il est contaminé par un fluide étrange qui est le produit du travail d'un autre personnage, Christopher Johnson, un extraterrestre. Alors là, tout de suite, comment un extraterrestre peut-il s'appeler Christopher Johnson ? Tout simplement parce qu'un des mécanismes d'aliénation des individus est de leur prendre leur nom et de leur en imposer un autre. En les humanisant, on leur retire ce qu'ils ont d'un peu effrayant, mais surtout on leur retire leur culture. Christopher Johnson est, contrairement à ce que l'on montre des autres extraterrestres, un être extrêmement intelligent, qui possède une technique très avancée et qui maîtrise la technologie extraterrestre. Ce qui en fait un danger, puisque la MNU a bien pris soin de couper tout accès à sa technologie à la population extraterrestre, et surtout de l'empêcher d'acquérir de la technologie humaine. Ils sont donc parqués dans le district 9, sans éducation, dépendant du bon vouloir de la MNU pour être nourri, sans aucun pouvoir politique, sans même de technologie, et tenez-vous bien, pour se reproduire, il leur faut un permis. C'est-à-dire que rien ne leur est autorisé sans que cela passe par la MNU. Et on apprend très vite que ce qui intéresse la MNU, c'est naturellement la technologie extraterrestre, qui est extrêmement performante et surtout qui dispose d'armes particulièrement meurtrières. Or, la MNU, avant d'être la représentation industrielle de l'ONU, est aussi une compagnie d'armement. Et on comprend très vite que le parquage des extraterrestres et la limitation de leur accès à la technologie n'a qu'un seul but, leur empêcher de réparer leur vaisseau spatial et de repartir chez eux. Parce que la MNU veut leur technologie. Et là, l'intrigue est placée. Vicus Van de Merwe est contaminé par la technologie alien, et il est représentant d'une compagnie qui veut s'en emparer. Vous voyez tout de suite qu'il va arriver des choses désagréables à ce personnage. Effectivement, il se transforme en extraterrestre. Et au moment où la chose devient apparente, la MNU s'empare de lui, l'emmène dans son siège et procède sur lui à des expériences afin d'apprendre comment il a pu faire ça et d'hybrider d'autres humains pour qu'ils puissent se servir de l'armement extraterrestre puisque ce dernier ne peut être utilisé que par les détenteurs d'un ADN particulier. Et là se pose la structure de la transhumanité. La transhumanité est une idéologie qui est tirée de l'humanisme. Elle cherche à améliorer le sort de l'humanité en améliorant l'humain par des moyens cybernétiques, par la médecine régénérative ou par les biotechnologies. Mais se pose un problème dialectique immédiat. Améliorer quelque chose, c'est lui donner intrinsèquement une valeur moindre à l'origine. On créerait donc une humanité moindre et une humanité plus. Il ne peut y avoir que des débordements à partir de ça. D'ailleurs, le cadre du film lui-même, l'endroit où ça se passe, sous-entend tout ce que un État centralisé peut produire comme aliénation pour les populations inférieures, qu'il juge comme négligeable. Créons une humanité plus, que va-t-il advenir de l'humanité moins ? Et il s'agit là d'une aliénation particulière que de transformer des êtres humains pour en faire des soldats pour pouvoir se servir de certaines machines. La démarche en elle-même est néfaste car on va plier des corps à des nécessités industrielles qui dépassent de loin les personnes qui seront modifiées. Quel intérêt ces personnes ont-ils à pouvoir utiliser des fusils qui lancent des micro-ondes et font exploser les gens ? Par contre, les industriels qui les produisent ont intérêt à les vendre. Les États qui possèdent ces armées ont des intérêts. C'est-à-dire qu'on propose une technologie, très exactement un système technique, qui va abolir la valeur de l'être humain en tant que tel et va le transformer en un outil qui sera exploitable à volonté par des intérêts particuliers et précisément ceux d'une petite fraction de la population. On a là le cadre du système technique symbolique déployé par Neil Blomkamp dans District 9, qui représente l'humanité, tout ce qu'elle peut avoir de côté obscur. Et en face, il y a la technologie extraterrestre. Et aussi, en dessous, la lutte de ces extraterrestres pour reprendre possession de leur propre existence. Lorsque Vicus Vandemeur est emmené au siège de la MNU, il subit des tortures. Et entre autres, on lui fait tuer contre sa propre volonté des extraterrestres. Et il se passe là un moment de rupture. Son esprit est soumis à trop de violence, et il y a chez lui un basculement. Un basculement qui met du temps à venir. Il commence par profiter des nouvelles capacités de son corps pour s'enfuir. Il se rend compte que la MNU contrôle en fait tout, les médias, la justice, la police, et qu'il se produit une chasse à l'homme. On a répandu sur lui des mensonges que la presse n'a pas vérifiés, naturellement, et qui en profite pour faire les gros titres. Il aurait forniqué avec des extraterrestres. Attaquer un homme dans sa sexualité est une chose courante, et dans le cas présent, tout le monde gobe l'affaire. Il se trouve donc qu'il est pourchassé et que tout le monde le prend pour un monstre pervers. Étant donné qu'il se transforme en extraterrestre, la fable est beaucoup plus facile à avaler. Mais derrière cela, naturellement, puisque tout le monde le poursuit, il en est réduit à se réfugier dans le seul endroit qui lui permet d'exister en tant que personne, c'est-à-dire le District 9. Et il y a là une dimension très importante. Le corps est attaché à un lieu. Et là aussi, c'est une forme d'aliénation. Si vous êtes parqué à un endroit donné parce que votre corps possède des caractéristiques qui vous y lient, vous êtes victime d'une aliénation. Que va-t-il se passer dans le District 9 ? Eh bien, peu à peu, Vicus Vandemeur va réaliser qu'il n'est plus humain. Pas parce que son corps a changé, mais parce que les siens ne le considèrent plus comme humain. Le lien qui l'unit à ses semblables a été rompu. Alors que, dans ses processus mentaux, dans sa personne, il est toujours humain. En se retrouvant à partager le sort des extraterrestres, il en partage le mode de vie. Et le film nous montre à ce moment-là que si les extraterrestres sont violents et volent, ce n'est pas parce que ce sont des extraterrestres idiots perdus sur la planète. Il peut y avoir un problème de décalage culturel, de perception de bien et du mal. Mais en réalité, ils mènent la même vie que les criminels et les marginaux de cette Afrique du Sud. Il y a des criminels dans le District 9 qui mènent exactement la même vie que les extraterrestres, qui jouent avec eux, qui font combattre des créatures venues d'une autre planète dans des jeux qui sont similaires à des combats de coqs. C'est-à-dire que des extraterrestres cohabitent avec ce que l'élite de la population humaine appellerait la lie de la société. En réalité, puisqu'ils n'ont aucune importance politique, tout comme les miséreux d'Afrique du Sud, ils subissent le même sort que ces miséreux-là, et en sont réduits à la criminalité. Mais, étant ignorants des lois qui régissent la société humaine, ils sont aussi exposés à la criminalité de cette même basse société, puisqu'ils sont sans défense face à elle et ne la comprennent pas. Ils sont donc exploités non seulement par l'élite, mais aussi par la plus basse couche de la société. La seule personne qui va venir en aide à Vicus Vandemeur, c'est Christopher Johnson, la personne qui a mis au point le fluide qui l'a contaminé et qui l'a transformé. Ce personnage fait une chose remarquable, il lui pardonne ses actes. Christopher Johnson a été victime de Vicus Vandemeur. Il possède un fils, Vicus a essayé de lui arracher pour qu'il accepte de signer l'acte d'expulsion de sa maison. Et pourtant, il passe l'éponge, il propose de coopérer avec lui pour lui rendre son corps, ils montent des plans, et ensemble, ils vont aller se battre contre la MNU jusque dans leur siège pour pouvoir récupérer ce dont ils ont besoin pour alimenter ni plus ni moins qu'un vaisseau spatial qui est en la possession de Christopher et qui lui sert de cachette. Et à ce moment-là, le film achève de mettre en place son dispositif symbolique, qui est comme tel. Vous disposez d'un espace scindé en deux, entre le District 9 et la société humaine à l'extérieur. En réalité, au fur et à mesure du film, ces deux espaces se réduisent. Il y a d'un côté la navette de Christopher Johnson, qui est un abri, un lieu de haute technologie, et de l'autre côté, la MNU, qui est elle aussi un pôle de haute technologie. mais au sein de la MNU se déroulent des atrocités. Et lorsque Christopher Johnson et Vicus Vandemeur vont assaillir la MNU, Christopher Johnson est exposé aux horreurs commises par la MNU dans ses sous-sols. Il voit ses semblables découpés, leurs carcasses qui ont été mutilées, des tissus tirés de l'intérieur de leur corps, exposés et soumis à des expériences. Et ça cause en lui un choc, une rupture. Une fois qu'ils ont accompli leur mission et qu'ils sont de retour à la navette, il y a une dispute entre Vicus Vandemeur et Christopher Johnson, car ils ne sont plus d'accord sur ce qu'il convient de faire. Vicus veut récupérer son corps humain, il veut récupérer son humanité. Et pour cela, il trahit Christopher Johnson, qui lui veut sauver les siens et retourner le plus vite possible vers sa planète. Et à ce moment-là, naturellement, puisqu'ils ne sont plus alliés, ils sont seuls, et étant seuls, ils échouent. Vicus tente de s'emparer du vaisseau spatial, mais comme il ne possède pas les connaissances techniques nécessaires, même si son corps lui permet de l'utiliser, car le vaisseau spatial lui aussi reconnaît le corps de l'extraterrestre et se met en marche à son contact, il s'écrase après avoir été abattu et capturé, Christopher Johnson aussi. Vicus est entre les mains de criminels, Christopher entre les mains de la MNU, et on pense à ce moment-là que tout est perdu. Sauf que, dans leur empressement, les deux factions qui s'opposent et qui veulent exploiter des extraterrestres ont oublié le fils de Christopher Johnson, l'être insignifiant. Et ce fils est aussi intelligent que son père. Et il sauve la situation depuis la navette, à l'abri dans son cocon, grâce à un dispositif qui est semblable au jeu de stratégie dans les jeux vidéo, où il peut activer des outils à distance. Il remet en marche le grand vaisseau-mère circulaire, le ramène vers la navette, et en faisant ceci, tous les armements extraterrestres dans le District 9 se remettent en route. Dont un gigantesque exosquelette, enfin gigantesque, 3 mètres de hauteur tout de même, c'est respectable, un exosquelette. Si vous ne savez pas ce que c'est une sorte de robot plus ou moins complet, à l'intérieur duquel le corps humain ou extraterrestre est placé. Et cette machine permet à l'être, étend ses capacités sensorielles et physiques, et lui permet d'agir sur le monde extérieur. Ici, se battre. Vicus Vandemeur s'empare de la machine, sauve sa peau, et est sur le point d'abandonner Christopher Johnson au moment où il réalise que, d'une part, même avec cette machine, il est cuit, et d'autre part, il voit le vaisseau-mère en marche et se dit que Christopher Johnson, lui, peut être sauvé. Et à ce moment-là, sa mutation s'achève. Il abandonne ses objectifs et décide de sauver Christopher, acquérant ainsi, définitivement, l'empathie qui lui faisait défaut au milieu du film. Il s'agit là d'une double mutation. Premièrement, une mutation kafkaïenne. Vicus Vandemeur est transformé physiquement et il perd son humanité physique. Mais au début du film, ce n'est pas un être humain, c'est une machine qui obéit aux ordres de la MNU pour asservir d'autres êtres sensibles. Et cette expérience de transformation du corps et toute la violence sociale et physique qu'il subit à cause d'elle lui fait vivre la même expérience que celle des extraterrestres et il comprend l'horreur de ce qu'il a fait. Et à ce moment-là, il acquiert de l'empathie envers eux. Or, l'empathie est une des caractéristiques principales de la psyché humaine. Ce faisant, en perdant son corps, il gagne son humanité. En acceptant son sort, en décidant de sauver Christopher et en allant jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la fin ultime, sa propre mort éventuellement, il devient un héros de type germanique, c'est-à-dire un individu qui accepte sa condition, accepte son être, accepte son destin et se bat jusqu'au bout, malgré tout. Ce n'est pas un héros gréco-romain, ce n'est pas non plus un héros moderne tel que Rambo ou le sergent McLean des très célèbres films, mais quelque chose de complexe. Il y a une notion dans le héros germanique d'acceptation de soi et de sa fin. Et à partir de là, le film tombe dans une débauche de violence épouvantable. Tout le mal qui a été fait à Vicus Vandemeur ressort, il se venge, et c'est une boucherie. Le film est très dur à regarder à partir de ce moment-là, car il n'y a aucune forme de pitié. Pire que tout, l'exosquelette qui donne à Vicus la stature nécessaire pour se battre et lui confère les armes nécessaires pour vaincre, est un corps extraterrestre, mécanisé certes, mais il réagit au mouvement de la tête, des bras. C'est une seconde peau. Vicus, à l'intérieur, ressent les impacts. Et pire que tout, la machine, lorsqu'elle est blessée, donne l'impression d'être un animal blessé. Des fluides s'échappent, elle boite. Et en fait, on assiste à un long martyre et à une sorte d'agonie. Le film se termine lorsque Vicus, contrairement à ce que l'on pourrait croire, survit, tout en ayant réussi à permettre à Christopher et son fils de s'enfuir. Vicus survit tout simplement parce que, après avoir été vaincu par la MNU, le seul soldat survivant se fait mettre en pièces par les extraterrestres. Lui aussi s'est retrouvé seul au milieu d'adversité, et lui aussi a perdu à cause de ça. On a donc, au milieu de tous ces messages symboliques, une réalité simple. L'être sensible vit en société. Et entre êtres sensibles, nous pouvons, par moment, ou structurellement, aliéner un groupe. Mais seuls, nous sommes la proie d'autrui. Nous avons besoin d'être liés. Et ces liens sont ce qui forme la société. Les choix que nous faisons en tant que société créent notre système politique. Et ces choix de société et ces choix politiques ressortent sur le système technique dans lequel nous vivons. C'est un point important qui a été développé par Stéphane Vial en 2013 lorsqu'il a sorti « L'être et l'écran ». Le système technique dans lequel nous vivons est la cristallisation de notre système sociopolitique. Lorsque le film érige en pôle opposé le siège de la MNU et la navette de Christopher Johnson, c'est une transposition sur le plan spatial de l'opposition sociale entre deux groupes. La petite élite d'oppresseurs qui est suivie par le reste de l'humanité, qui exerce une violence à l'encontre du petit groupe d'extraterrestres naufragés. C'est une force d'aliénation, alors que les extraterrestres tentent de préserver leur intégrité. Et sur le plan technique, on se rend compte que le système mis en place par l'humanité est un système aliénant, et que le système mis en place par les extraterrestres est un système intégrant. Pourquoi est-il intégrant ? En premier lieu, la machine chez l'extraterrestre ne fonctionne que au contact d'un extraterrestre. Elle reconnaît le corps. Deuxièmement, elle est perçue comme une prothèse qui a pour but d'étendre ses capacités sensorielles et physiques. Troisièmement, elle l'englobe. Là où la technique humaine vise à transformer le corps, dans le District 9, naturellement, la technique extraterrestre vise à l'entourer, à le percevoir, à l'intégrer dans ses mécanismes et à lui permettre d'atteindre son plein potentiel. Pourquoi donner des bras mécaniques à un soldat pour le rendre plus fort, lorsqu'on peut créer une machine qui va le faire sans avoir à attenter à sa chair? Et c'est là une opposition fondamentale dans le film. Tout est construit de façon à ce que la technologie extraterrestre, qui est la seule façon pour nous d'appréhender le système sociopolitique extraterrestre, soit présentée sous un jour favorable, où le corps est placé au sein d'un système qui va lui permettre de percevoir le monde de façon améliorée et lui permettre d'agir dessus de façon améliorée. Or, ceci est un mécanisme fondamental du jeu vidéo. Lorsque vous jouez à un jeu vidéo, vous jouez à manipuler un monde numérique avec lequel vous entretenez par le biais d'une interface diverses relations d'objets, qui vont être des relations d'objets imaginaires, virtuels ou réels, dans les 3 degrés allant du plus abstrait vers le plus concret. Cela vous permet de procéder à de nombreuses manipulations et crée ce que Mathieu Triclot, dans Philosophie des jeux vidéo, paru en 2011, et dans un article qui s'appelle Les corps du jeu vidéo, paru en 2012, appelle un accordage émotionnel. C'est-à-dire que les créateurs d'un jeu vidéo créent un régime d'expérience particulier. Et ce régime d'expérience particulier vous fait vivre un accordage émotionnel avec un dispositif technique qui va, si vous êtes dans face à un dispositif qui capte vos mouvements, vous forcer à vous déplacer d'une certaine façon, comme dans un jeu comme Dance Dance Revolution. Si vous êtes dans une borne d'arcade d'Afterburner, vous allez vivre un combat aérien en étant balancé à 360 degrés dans tous les sens. Si vous êtes face à un jeu de stratégie, vous allez engager une activité réflexive intense. Cet accordage émotionnel se retrouve dans l'usage des objets techniques. C'est-à-dire que un système technique donné entraîne un accordage émotionnel particulier qui va modifier votre perception du monde et votre être au monde. Ce que District 9 nous expose, c'est ni plus ni moins qu'un système sociopolitique aliénant ne peut produire qu'un système technique aliénant, et qu'un système sociopolitique qui vise à intégrer chaque membre de la société en son sein ne peut produire qu'un système technique qui va viser à intégrer l'être sensible dans la machine, pas la lui faire subir, lui permettre de s'épanouir grâce à elle. Alors naturellement, il s'agit là d'un dispositif symbolique. Et au sein de ce dispositif symbolique, chaque pôle est organisé de la même façon, suivant une relation triangulaire entre corps, psyché et technique. Mais Neil Blomkamp et les personnes qui ont participé à la réalisation de District 9 n'ont pas sorti ces choses-là par hasard. Elles existent déjà dans notre société. Les exosquelettes sont en cours de développement dans les industries d'armement américaines. Le jeu vidéo, qui fournit à District 9 une bonne part de son imagerie, a inventé depuis fort longtemps des robots géants, des navettes spatiales, jusqu'au système de représentation et d'utilisation de la machinerie alien est une copie de ce que vous pouvez voir dans un jeu vidéo comme StarCraft ou comme Iron Hearts. C'est-à-dire que ce qu'a mis Neil Blomkamp dans son film, c'est en réalité une opposition entre deux visions différentes de l'utilisation de la technique dans nos sociétés. C'est une fable qui prend ses racines dans l'apartheid, qui nous montre ce que nous pouvons avoir de plus néfaste en tant que comportement social, mais nous montre aussi ce que nous pouvons avoir de plus brillant, de respect d'autrui, et nous montre aussi que nous avons des choix à faire en tant que société. Naturellement, Neil Blomkamp prend parti pour un dispositif qui est intégrant, qui respecte le corps. Ce n'est pas pour autant que tout est à jeter dans le discours de la transhumanité. Il faut bien faire la part des choses. Cette exploitation du jeu vidéo, elle se retrouve aussi dans la façon de filmer. Je vous ai parlé précédemment de cette caméra très près du corps, portée sur l'épaule, de ces interviews, parfois des caméras de surveillance qui sont utilisées. Mais il y a aussi de brefs moments dans lesquels la caméra est fixée à l'arme ou au corps de l'acteur. Et lorsqu'elle est fixée à l'arme, elle fait référence au jeu de tir en vue subjective, qui se voit à travers l'arme, ou avec l'arme légèrement décalée. Lorsqu'elle est fixée au corps, elle fait référence à la proprioception, c'est-à-dire la perception de son propre corps dans un univers numérique. Il y a des jeux vidéo qui vous donnent réellement l'impression d'être présent à l'intérieur. Et actuellement, on développe de plus en plus de techniques pour favoriser cette immersion du corps sensible dans le numérique. C'est-à-dire que non content d'exploiter des systèmes techniques en tant que symbole dans le film, l'équipe de réalisation de District 9 l'a aussi fait dans la technique mise en œuvre pour le filmer. Et on se trouve à deux niveaux. J'ajouterai que ces techniques de jeux vidéo sont de plus en plus présentes dans notre vie de tous les jours, et de façon tout à fait intéressante dans les technologies d'armement de pointe. À l'heure actuelle, piloter un drone de combat, c'est piloter une machine à distance grâce à un système qui vous informe et qui augmente considérablement votre façon de percevoir le monde et d'agir dessus. Naturellement, c'est fait pour détruire. Mais imaginons que l'on fasse la même chose pour opérer des opérations délicates dans un milieu dangereux pour le corps humain, et à ce moment-là, nous changeons tout. Et ce sont aussi des travaux qui sont menés à l'heure actuelle. Ce qui m'amène à la conclusion. En opposant le discours transhumaniste, ou une certaine vision du discours transhumaniste, au discours intégrant tenu par le jeu vidéo et une partie de l'industrie de l'armement, aussi paradoxal cela puisse être, Neil Blomkamp nous montre qu'effectivement, nous décidons de ce que devient notre système technique par nos choix sociaux et politiques. Plus important, il nous montre que la technique n'est pas une fin en soi. À une époque, la philosophie des techniques s'opposait entre technophiles et technophobes. Les technophiles pensaient que la technique allait radicalement améliorer la vie des êtres humains, et les technophobes pensaient que, au sein de la technique, résidait un danger ultime pour l'être humain, celui de se perdre à l'intérieur de la technique. En réalité, si on lit Stéphane Vial, qui fait une synthèse intéressante de la philosophie des techniques, on se rend compte que ces questions sont un peu absurdes. car la technique n'existe pas en elle-même, ce n'est pas une entité séparée, elle n'a pas de volonté propre, elle ne va pas évoluer malgré certains fantasmes ayant trait à l'intelligence artificielle et à cette espèce de grand délire des jeux vidéo et des films hollywoodiens ou de la science-fiction, c'est-à-dire les armées de robots qui viendraient nous exterminer. La technique est dépendante de nous. Une technique, c'est tout simplement ce qui permet de modifier le monde. Lorsque vous voulez modifier le monde, vous prenez des matières premières, vous employez une technique grâce à des outils pour le transformer en produit fini. Et votre premier outil, c'est votre main. Votre première technique, ce sont vos gestes. Il n'y a pas de technique sans être humain. En utilisant la technique dans District 9, il remplace en fait la corporéité, l'être sensible. Il nous montre que nous sommes les personnes qui décidons. Plus important, la question vraiment centrale de la fin du film est, une fois que Christopher Johnson part, rentre chez lui, que se passe-t-il ? On ne peut qu'espérer que les extraterrestres, ses semblables, n'auront pas à notre égard la même attitude qu'a eu notre élite envers leur peuple. C'est-à-dire que l'on ne peut qu'espérer qu'ils soient différents de nous. Ça va revenir. Oui. En fait, il s'agit là de l'expression d'une angoisse qui est la peur de nous-mêmes. Mais en plaçant son film au sein de l'Afrique du Sud, à Johannesburg, là où ont eu lieu les émeutes de Soweto, qui ont fait tellement de morts, et surtout par leur charge symbolique qui a montré que, à ce moment, dans le temps, il était hors de question de sortir de l'apartheid, même si cela devait coûter des centaines de vies. En plaçant l'action ici, il montre qu'il y a de l'espoir. C'est-à-dire que les relations entre humains ne sont pas forcément une série de vengeances, tout comme l'intervention des extraterrestres pour sauver leur peuple ne sera pas forcément un anéantissement de l'espèce humaine. Le message de la fin de ce film est tout simplement que si Nelson Mandela est parvenu à réconcilier sa nation grâce aux personnes qui le soutenaient, grâce aux personnes qui, de chaque côté de la barrière qui avait été érigée par l'apartheid, sont parvenues à se réconcilier, et même si à l'heure actuelle en Afrique du Sud la situation est très difficile, comme on a pu vous le montrer auparavant, il y a toujours de l'espoir, et il faut faire confiance au peuple pour émerger vers des choses plus grandes.